Nous voici donc réunis ce matin, frères et sœurs, au cours de ce culte, pour partager un moment de reconnaissance, également qui sera un moment de témoignage et de remise de certificats, oserais-je dire diplômes, avec les 5 étudiants qui ont suivi les 3 années du programme Aventure Formation. Avant de vivre ce moment particulier de notre célébration, c'est mon privilège d'apporter la prédication, et j'aimerais le faire sur ce thème de l'aventure et de la formation, un peu à la manière d'une leçon de clôture en toute humilité. Mais je voudrais évoquer à grands traits avec vous une aventure particulière, une aventure humaine et spirituelle extraordinaire, une sorte d'archétype de l'aventure formation, j'allais dire la mère de toutes les formations, une aventure qui perdure encore aujourd'hui au travers de nous, au travers des prolongements qui sont les siens dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Je veux parler, vous l'avez compris, de l'aventure des 12 disciples de Jésus, celle qui s'est étendue sur 3 années, grosso modo, et 3 années intenses pendant lesquelles le Seigneur a formé les futurs leaders de l'Église du 1er siècle. Et je qualifierai cette aventure par 3 adjectifs, et ce sera les 3 parties de ma prédication. Une aventure surprenante, une aventure exaltante, une aventure paradoxale. D'abord, une aventure surprenante. L'aventure des 12 disciples autour de Jésus est tout sauf banale. Et ce, pour différentes raisons qu'on en juge. Tout d'abord, par l'appel de Jésus, par la vocation des disciples. S'il n'était pas rare à l'époque de rencontrer tel ou tel rabbi avec son groupe de disciples autour de lui, le plus souvent, c'était les adeptes, les fans, les convaincus qui choisissaient leur maître et le suivaient, s'attachaient à son enseignement. Il en va tout différemment du mode de recrutement de Jésus. C'est lui et lui seul qui choisit les 12 disciples et qui les appelle personnellement par leur nom. Qui plus est, à ceux qui se portent volontaires pour le suivre, vous savez, dans l'Évangile, Jésus adresse des paroles plutôt décourageantes afin de bien les avertir des exigences de la mission qui est la sienne. Et dans l'Évangile de Jean, nous lisons cette parole de Jésus au chapitre 15, quand il dit à ses disciples « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » On peut facilement imaginer que les 12 ont été les premiers surpris du choix de Jésus à leur endroit et qu'ils se soient posés à un moment ou à un autre la question « Mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que je fais là, dans ce groupe des 12, avec les difficultés rencontrées dans cette aventure si peu banale ?» Avec peut-être aussi tapis au fond de leur cœur le sentiment caché que cette affirmation de Jésus fondait leur légitimité et leur donnait finalement la force de persévérer dans les difficultés de l'entreprise. Comme nous nous posons parfois cette même question sur notre ministère, sur notre service ou notre place dans l'Église, pourquoi moi ? Cette question qui ne reçoit finalement qu'une seule réponse, brève mais décisive, parce que je t'ai choisi. C'est ce que nous dit le Seigneur. Accepte simplement ma volonté et accomplis-la. Aventure surprenante donc que celle des disciples au regard de l'appel de Jésus qui la motive et qui la met en marche. Mais aventure surprenante aussi au regard de la composition de l'équipe des 12. Quelle diversité au sein du groupe, même si la majorité des disciples, sans être des miséreux, sont, comme on dit, de basse extraction. Pas vraiment des riches, pas vraiment des nobles, à l'inverse des femmes qui accompagneront le groupe et qui soutiendront matériellement le groupe de Jésus. Pas vraiment des intellectuels. Bref, des hommes du peuple, ce peuple que l'on cherche un peu aujourd'hui, ce sont eux des hommes du peuple. Le leader des douze, Pierre, et ses deux acolytes, Jacques et Jean, c'est-à-dire les trois qui ont été les plus proches de Jésus et qui ont assisté tout particulièrement à la scène extraordinaire de la transfiguration de Jésus, n'étaient que de simples pêcheurs de poissons que Jésus va transformer en pêcheurs d'hommes et en théologiens, témoignant que le Dieu créateur s'est révélé en la personne de son Fils Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité. Leur parcours de 3 années aux côtés de Jésus va les transformer, les porter au-delà d'eux-mêmes, de ce qu'ils étaient humainement, pour en faire les premières pierres de l'Église de Dieu, fondée sur la pierre angulaire que constitue le maître qu'ils ont suivi. Bien évidemment, comme dans tout groupe humain, même assemblé autour du plus parfait conducteur que constitue Jésus, la diversité, par ailleurs si précieuse, va se révéler aussi source de tensions et de tiraillements entre les 12. Qu'on pense tout simplement à la demande de Jacques et Jean, accompagnés de leur mère, revendiquant les places d'honneur à la droite et à la gauche de Jésus quand il viendra dans son règne. Dans son évangile, Matthieu écrit que suite à l'expression de cette prétention, de cette ambition, les 10 autres disciples furent indignés, en colère, contre les deux frères. Non, les disciples n'ont pas échappé aux difficultés inhérentes aux relations humaines, même en suivant Jésus. En fin de compte, c'est Jésus et lui seul qui garantit et maintient l'unité du groupe. C'est le maître qui fait l'unité de son groupe. Nous ne pouvons que nous sentir proches de ces hommes et de leurs difficultés relationnelles, car c'est aussi cela que nous expérimentons dans notre vie d'Église. Notre unité spirituelle fondamentale en Christ ne nous exonère pas de nos désaccords, voire de nos divisions, qui peuvent parfois conduire à des séparations douloureuses. Nous ne sommes pas encore complètement arrivés dans le royaume. Mais qu'il nous suffise de nous rappeler que le Seigneur continue à bâtir son Église au-delà des crises que son Église peut rencontrer, malgré tout et malgré nos faiblesses. Mais l'aventure des 12 n'a pas été que surprenante, elle a été aussi une aventure exaltante. Exaltante, bien sûr, et c'est le plus important, par la personnalité hors norme du maître du groupe des 12, un homme extraordinaire, sans faute, sans faiblesse, un pédagogue sans égal, pour les foules comme pour les 12. En même temps, un berger plein de douceur, de tendresse pour les pécheurs et d'une autorité sans précédent. Ce que vont vivre les 12 avec Jésus, le Fils de Dieu, va se révéler absolument extraordinaire, car il va les rendre pleinement participants de son ministère. La formation que vont recevoir les disciples est une formation profondément biblique, enracinée dans la parole de Dieu et pleinement pratique, à l'ouvrage avec le maître. Jésus va les associer à son ministère d'enseignement. Déjà, les disciples vont entendre toutes les paroles que Jésus adresse aux foules rassemblées. Et de plus, comme nous l'avons lu dans le texte de Marc, Jésus va expliquer en privé aux 12 le sens des paraboles qu'il délivre dans son enseignement public. Et enfin, Jésus va les envoyer prêcher la bonne nouvelle du royaume à partir de ce qu'ils ont entendu et compris de lui. Quel privilège, quelle formation dépassant toute formation que l'on puisse imaginer. Car au travers de la parole du rabbi Jésus, les disciples reçoivent l'enseignement du Logos divin, celui par qui tout a commencé à exister et continue à exister. Et le maître mot que l'on peut donner à cet enseignement, c'est le mot « vérité ». C'est cela qui donne de l'autorité aux paroles de Jésus. Il parle selon la vérité. Jésus enseigne aux foules et aux 12 la vérité parce qu'il est lui-même la vérité incarnée. Mais Jésus ne fait pas qu'associer ses disciples à son enseignement. Il les associe aussi à ses miracles. Jésus délègue aux douze la puissance qui est la sienne, celle de l'Esprit-Saint qui repose sur lui. Comme leur maître, les disciples vont guérir les malades, ils vont chasser les démons, les esprits impurs. Bref, faire les mêmes miracles que Jésus. À un point tel que cela va leur monter quelque peu à la tête. Quand ils vont demander, vous vous souvenez de cet épisode, ils vont demander à Jésus s'il leur faut ordonner au feu de descendre du ciel, un peu à la manière du prophète Élie, pour punir des Samaritains récalcitrants, peu accueillants. En l'occurrence, si leur puissance est celle de Jésus, leur état d'esprit est à l'opposé de celui du Seigneur qui est venu non pas pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Ainsi, pendant 3 années, en les associant de manière très étroite à l'ensemble de son ministère, Jésus va former les 12 et les préparer à leur responsabilité d'après Pentecôte. Et dans cette aventure exaltante, comment ne pas souligner le fait que les épisodes dramatiques alternent avec les épisodes extraordinaires. Pris dans la tempête sur le lac de Tibériade, les disciples craignent de mourir. « Seigneur, nous périssons » avant que Jésus ne calme les éléments, provoquant cette interrogation. Mais qui est celui-ci ? Qui est celui-ci ? C'est pourtant leur maître, c'est pourtant celui qui les a choisis. Qui est celui-ci à qui les vents et la mer obéissent ? On imagine, par ailleurs, l'émerveillement des disciples lors de la double multiplication des pains. Ils ont été les instruments de la distribution des pains à la foule. On imagine leur joie quand ils reviennent de mission gonflés à bloc par leur succès. On imagine aussi leur étonnement, leur sidération heureuse à la vue des guérisons, des exorcismes, des résurrections opérées par Jésus. On imagine leur allégresse en communion avec la liesse de la foule lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, le jour des rameaux. On imagine aussi leur douleur et leur incompréhension lors de la passion de Jésus et de sa crucifixion, leur abattement lors de sa mort. Et leur joie, teintée de doute, le jour de Pâques, le jour de la résurrection du Seigneur. Que de hauts et de bas psychologiques, il faut pouvoir assumer intérieurement toutes ces choses, des hauts et des bas psychologiques et spirituels dans leur cheminement avec le Maître. Ils ont vraiment connu une aventure exaltante, mais en même temps éprouvante. Et l'exaltation peut aller avec l'épreuve. Les 12 disciples de Jésus ont vécu avec lui une aventure surprenante et exaltante. Mais je dirais par-dessus tout, ils ont vécu une aventure paradoxale. Je veux dire par là, en un mot, que pour les disciples, Jésus est resté une énigme. Et il ne pouvait sans doute pas en être autrement, car cette énigme se trouve intrinsèquement liée à celle de l'homme-Dieu qui était Jésus. Malgré l'enseignement dense et précis du Seigneur, les 12 n'ont pas vraiment compris ce qu'il disait. C'est pourquoi j'ai choisi de lire le texte où Pierre parle avec le Seigneur. L'exemple de Pierre est très significatif à cet égard. En réponse à la question de Jésus, « Vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis ?» Pierre fait une belle et juste confession de la messianité du Christ. Mais aussitôt après, ses autres paroles montrent qu'il n'a pas compris le type de Messie qu'était Jésus. Et Jésus le reprend, on ne peut plus vertement, en lui disant « Arrière de moi, Satan ». Et j'étais frappé en préparant cette prédication à cet endroit-là par la symétrie dans l'attitude de Pierre par rapport au reniement. Vous vous souvenez, au troisième reniement, il prononce un juron. Et là, il prend Dieu à témoin. À Dieu ne plaise. Et Jésus lui dit, mais arrière de moi, Satan. Pierre ne pouvait pas concevoir, et on peut le comprendre, que Jésus n'était pas seulement un Messie glorieux, mais un Messie qui devait souffrir, donner sa vie pour le péché de l'humanité. De manière suprême, la fin du ministère de Jésus déconcerte les disciples. Leur espérance entretenue pendant 3 ans se brise sur la croix de Golgotha et la pierre du tombeau. Ils ont cru en Jésus et voilà que celui-ci meurt comme un criminel, comme un misérable. Et même la résurrection ne les rassure pas vraiment. Certes, ils rencontrent Jésus, ils le voient à plusieurs reprises, et 2 d'entre eux le rencontrent sur le chemin d'Emmaüs, et ils reçoivent là un ultime enseignement sur le Christ dans les Écritures. Et si leur cœur brûle, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Un voile demeure, un mystère subsiste. Et quand ils le reconnaissent, c'est le moment où Jésus s'échappe. Après la résurrection, ils vont bénéficier de plusieurs rencontres avec le Seigneur, mais ils ne vivent plus en communauté permanente avec lui comme avant sa mort. Et finalement, Jésus les quitte pour retourner au ciel. Ils ne peuvent plus que s'appuyer sur les promesses de Jésus, et notamment la promesse de la venue du Consolateur, l'Esprit Saint. Et cette parole incompréhensible sur le moment, quand Jésus leur a adressé cette parole, ils n'ont pas dû du tout comprendre. Il vous est avantageux que je m'en aille. Comment comprendre cette parole de Jésus ? C'est la Pentecôte, finalement, qui va littéralement transformer les disciples et leur accorder le bénéfice de leurs 3 années de formation. Avec la venue du Saint-Esprit, le voile va se lever pour eux de manière décisive. Leur crainte va faire place à l'assurance, même devant leurs ennemis qui ont fait crucifier le Maître et même devant les persécuteurs. Avec la présence de l'Esprit, ils deviennent des hommes nouveaux et tout s'éclaire au sujet de l'énigme Jésus. Avec ce paradoxe que non seulement le Saint-Esprit leur donne de l'assurance, mais plus encore, il leur ouvre la compréhension des paroles de Jésus, comme Jésus le leur avait promis en Jean 13. Les 12 devenus les 11 par la défection de Judas les avaient entendus garder ces paroles quelque part en eux sans les avoir comprises au fond. Le Saint-Esprit va leur remémorer les paroles de Jésus et les leur rendre compréhensibles. A posteriori, tout s'éclaire. Le Saint-Esprit fait la lumière en eux et leur donne la force pour la prédication de la bonne nouvelle. Ils vont pouvoir travailler à la construction de l'Église du Christ, ce pourquoi Jésus les avait préparés pendant ces 3 années. Comme s'il avait fallu, paradoxalement, que leur maître les quitte physiquement pour se rendre intensément présent dans leur cœur, dans leur être intérieur, par le ministère de l'Esprit-Saint. C'est pourquoi ne pensons pas trop vite, frères et sœurs, que nous sommes désavantagés par le fait de ne pas avoir reçu, nous, directement, comme c'est le cas des 12, l'enseignement de Jésus. Quelquefois, on a cette idée, quels privilégiés ils étaient d'entendre Jésus. Ils ont entendu, mais ils n'ont rien compris sur le moment. Eux, comme l'exprime l'apôtre Paul, ont connu le Seigneur selon la chair, avant de le connaître selon l'Esprit. Nous, chrétiens du 21e siècle, nous le connaissons directement selon l'Esprit. Quand nous ouvrons notre cœur, ou plutôt quand l'Esprit ouvre notre cœur à la foi en Jésus. Alors je vois un petit clin d'œil là, et un petit encouragement pour vous, mes chers 5 étudiants, et pour nous tous finalement, dans cette expression « a posteriori ». Ce que nous n'avons pas compris de la parole, et il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas comprises encore. Ce que nous n'avons pas compris en un moment précis, nous sera rendu accessible quand Dieu, le Saint-Esprit, en décidera ainsi. Sans doute, nous ne comprendrons pas tout, mais ce qui nous est nécessaire, c'est sûr, nous sera révélé au moment où nous en avons besoin. L'important pour nous étant de garder le contact avec la parole de Dieu. Alors en conclusion, 3 choses rapides mais fondamentales. Quelle est la part de ce qui est unique pour les disciples et de ce qui est imitable pour nous dans leur expérience? 3 choses donc. D'abord, tous disciples, au sens strict fonctionnel du mot disciple, il n'y a eu que 12 disciples et il n'y en aura pas d'autres. Mais disciples, nous le sommes aussi, dans un sens plus large, puisque Jésus est notre maître, notre rabbi, notre enseignant, en même temps que notre sauveur. Jésus est notre maître, nous sommes ses disciples, à nous d'être ses témoins par la parole et par les actes. Deuxième chose, l'aventure continue. Plus de 2000 ans après les 12, leur aventure continue. C'est l'aventure de l'Église, c'est la nôtre, celle de la foi et du témoignage. La vie chrétienne est une formation continue. Et si on peut mettre à part du temps pour une formation particulière, comme vous l'avez fait, nous sommes en formation permanente sur le plan biblique comme sur le plan pratique. L'important, c'est de garder, nous tous, un état d'esprit d'aventurier. Ça, c'est le plus difficile. Mais je crois que le Saint-Esprit peut le produire en nous, garder un état d'esprit d'aventurier. Et puis, troisièmement, c'est l'esprit qui vivifie. C'est la grande leçon que nous avons rappelée de l'expérience des disciples. C'est l'esprit qui vivifie la parole. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nos plus belles actions, nos plus belles exégèses, nos plus belles théologies, nos plus belles prédications sont vaines sans ce souffle de l'esprit qui transmet la parole annoncée à ceux qui l'écoutent et qui touche les cœurs. C'est l'esprit qui appelle, c'est l'esprit qui qualifie, toujours pour le service, service de Dieu et service des autres. Alors je vous souhaite un bon service à tous les 5 étudiants et puis un bon service à nous tous dans le cadre de l'Église et hors de l'Église à partir de cette aventure extraordinaire des 12 disciples de Jésus. Amen.